Merci. Bien, ce soir, je vais continuer donc dans l'Épître aux Hébreux. On regarde les versets les plus importants. L'Épître aux Hébreux est une épître très riche, très profonde. Et là, on la survole. Et on est au chapitre 7. Le sujet principal de cette épître, c'est... Oui, la souveraineté de Jésus-Christ ou la personne de Jésus-Christ au-dessus de toute chose, exactement. Et c'est centré sur Christ. Et si on veut mieux connaître le Seigneur Jésus-Christ, il faut étudier l'Épître aux Hébreux, car on découvre des aspects qu'on ne connaît pas toujours. Alors, dans ce chapitre 7, j'aimerais qu'on regarde les versets 23 à 25. De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre, parce que la mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants, pour intercéder en leur faveur. Mais avant d'expliquer ce passage, j'aimerais prendre aussi l'explication sur Melchisédek. Ce passage, ce chapitre 7 et 8, parle d'un certain Melchisédek. On peut lire au début du chapitre, « Ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois. Il le bénit. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, Melchisédek, roi de justice. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Salem, ça veut dire paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. » Et l'idée, ensuite, c'est que Christ est sacrificateur pour toujours. On peut juste regarder la citation au verset 17, toujours du même chapitre. « Ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. » C'est une citation du psaume 110. Verset 21. « Les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, mais Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit « Le Seigneur a juré, il ne se repentira pas, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. » Alors, je voulais parler de Melchisédek parce que c'est central dans l'Épître aux Hébreux, et en fait c'est central aussi dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu a instauré la sacrificature, c'est-à-dire des prêtres qu'on appelle dans la Bible seconde des sacrificateurs. En fait, ce sont des prêtres qui officiaient dans le temple et c'est eux qui expiaient les péchés en sacrifiant. Ils n'offraient pas, eux, ils sacrifiaient et ils brûlaient. Et c'est le peuple qui venait apporter des animaux pour leurs péchés. Les sacrificateurs n'étaient pas n'importe qui, ils étaient choisis dans une tribu, la tribu de Lévi. Lévi, c'est un des 12 fils de Jacob, des 12 tribus. Et les Lévites étaient une tribu à part. Ils étaient dédiés, consacrés au sacrifice et au temple. Et ils n'avaient pas d'héritage terrestre. Par exemple, ils n'avaient pas de terre à eux, ils n'avaient pas le droit à un terrain. Ils devaient dépendre des dons, des offrandes, du reste du peuple, parce que eux, leur terre, c'était le temple, c'était leur consécration. Et de père en fils, descendant de Lévi et d'Aaron, Aaron c'est Lévi aussi, on était sacrificateur. Donc si votre père est sacrificateur, vous savez que vous allez le devenir aussi. Et comme il y en avait beaucoup, il y avait des classes de sacrificateurs qui tournaient, il y avait 24 classes. Et certains, d'ailleurs, voient ce 24 à rapprocher des 24 anciens de l'Apocalypse qui se trouvent dans le ciel. Quoi qu'il en soit, un sacrificateur ne pouvait être que sacrificateur. le roi n'avait pas le droit d'être prêtre. Voilà. Il n'y a pas de roi qui était prêtre après Moïse. David était roi. Il venait de quelle tribu, David? Juda. Et la tribu de Juda n'a pas le droit d'être au temple, de sacrifier. Il n'y a que la tribu de Lévi. Il fallait être lévite. Voilà. Et les rois n'étaient pas sacrificateurs. Il y avait deux, c'était deux choses différentes. On oignait le roi pour être roi et on oignait les sacrificateurs ou les prophètes, mais c'était séparé. Mais il y a un cas dans la Bible, quelqu'un qui est roi et sacrificateur, et ce cas, c'est Melchisédek. Vous pouvez prendre avec moi dans Genèse 14, justement, ce fameux passage. Genèse chapitre 14. Il y a une guerre contre le roi de Sodome. Et Abraham va aider les rois de cette région, hein, Sodome c'est au sud de la mer Morte, va aider les rois à se tirer d'affaire de cette attaque de roi de Sodome. Et Abraham va vraiment avoir une victoire de la part de Dieu. Et ensuite, il va eh bien se présenter devant Melchisédek. On regarde ça au verset 18. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Ça, c'est intéressant aussi, du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abraham et dit: Béni soit Abraham par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Donc, on remarque qu'il était roi de Salem. Salem, c'est l'ancêtre de quelle ville? Jérusalem. Hein? Voilà. Yerushalayim, Salem, ça veut dire shalom, paix. Hein? Donc, c'est la ville de la paix. Et lui, il était roi de cette ville et en même temps sacrificateur du Dieu Très-Haut. C'était avant Moïse, avant les Lévites. Il y avait des sacrificateurs, mais ce Melchisédek est bien mystérieux parce qu'il arrive comme ça et on n'entend plus parler si ce n'est dans le psaume 110. Il disparaît comme il est venu. Il est juste là au milieu, il apparaît. Et ce qui est étonnant, c'est que Abraham le reconnaît comme sacrificateur, comme médiateur, puisqu'il va lui donner la dîme de ses conquêtes. Donc, quand on donne la dîme à quelqu'un, c'est qu'on reconnaît qu'il est près de Dieu, hein, qu'il est même représentant de Dieu. Et il est sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il n'est pas sacrificateur selon la famille de Lévi. Il est sacrificateur directement de Dieu. Les Lévites étaient sacrificateurs, je vous l'ai dit, de père en fils. Bien sûr, ça venait de Dieu, hein, cette sacrificature. Mais quand même, on était sacrificateur parce que son père l'était. Mais là, il est sacrificateur directement par Dieu. Et ce Melchisédek joue un rôle important dans la Bible parce que c'est un ordre qui est différent des Lévites. Les Lévites ont apporté la loi, ont encouragé la loi de Moïse, les sacrifices d'animaux, mais Melchisédek, son ministère s'étend jusqu'au Messie. Si vous prenez le psaume 110, qui est un psaume messianique, qui annonce le Messie, Parole de l'Éternel à mon Seigneur, donc le Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Donc là, c'est vraiment messianique, hein. Ça parle du Fils de Dieu, là, qui doit s'asseoir à la droite de Dieu. L'Éternel étendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée avec des ornements sacrés du sein de l'aurore. Ta jeunesse vient à toi comme une rosée. L'Éternel l'a juré, verset 4. Il ne s'en repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Ça ne peut pas être David, là. David n'a jamais été sacrificateur de quelque ordre que ce soit, puisqu'il était de Juda. Mais là, il parle au Messie. Hein? Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Seigneur au Messie, à venir. Et donc, ça annonce que le Messie sera sacrificateur et roi en même temps. Et si l'on revient à l'épître aux Hébreux, eh bien, celui qui correspond à cela, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est à la fois Sacrificateur en sens qu'il a, par son sang, hein, il fait l'expiation des péchés du monde. Il a donné sa vie pour le monde entier. Et donc il est un sacrificateur. Mais en même temps, il va être le roi lorsqu'il va venir régner. Il est déjà le roi, j'espère, de nos cœurs, mais il veut être le roi aussi sur toute la terre. Certains commentateurs, par exemple les Juifs, pensaient que Melchisédek, c'était Sem, hein, le père des Sémites. Chez les chrétiens, il y en a qui pensaient que c'était le Fils de Dieu avant son incarnation. Il y a toutes sortes de théories sur Melchisédek, qui est ce Melchisédek. Il n'a ni père ni mère, en fait, c'est-à-dire on ne connaît pas sa généalogie. On ne sait pas d'où il vient. Abraham, on sait qui est son père. Isaac, on sait qui est son père, mais Melchisédek, on ne sait pas, ni sa mère. Il vient comme ça, il apparaît, et c'est ce qui fait qu'il est étonnant, mais c'est en fait, il préfigure le Messie. Le Messie, c'est Dieu incarné. Bien sûr, il a un père qui est le Père Céleste, et une mère humaine, Jésus, qui est Marie, mais il est éternel. L'éternel n'a ni père, ni mère, ni commencement, ni fin, et en ce sens-là, le Fils de Dieu, le Messie, est l'Éternel et il est descendant de Melchisédek quelque part. Alors je reviens à Hébreux 7, 23. Il y a eu des sacrificateurs en grand nombre. Et oui, en Israël, les sacrificateurs travaillaient puis mouraient et c'est leur fils qui reprenait pendant des siècles et des siècles et des siècles. La mort les empêchait d'être permanents. Mais lui, le Messie, lui, Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce, pardon, qui n'est pas transmissible. Jésus est en fait maintenant notre sacrificateur éternel, définitif. Nous avons tous besoin d'un sacrificateur. Un sacrificateur, c'est un médiateur entre Dieu et nous. Il est écrit, hein, dans 1 Timothée 2, 5, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur. Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Donc, il n'y a pas 36 médiateurs, il n'y a pas 36 moyens d'aller à Dieu. Il y a un seul chemin, une seule vérité, une seule porte, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est le médiateur, il est le sacrificateur. Pourquoi il est le sacrificateur? Parce qu'il a donné sa vie en rançon. Beaucoup de gens ont donné leur vie pour une cause, pour leur patrie, pour leur famille, mais il n'y a qu'un seul être humain sur la terre qui ait donné sa vie en rançon pour les péchés, c'est Jésus. Il a fait donc cette expiation en donnant sa vie et il est ressuscité. Et maintenant, en tant que sacrificateur, c'est là la différence, c'est qu'il continue à exercer puisqu'il est ressuscité, il est toujours vivant. Les autres sacrificateurs, ils mouraient, mais lui, il ne meurt plus, c'est fini. Et l'Épître aux Romains, hein, chapitre 8, verset 34, dit: Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède. Dans 1 Jean, il est dit que si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui intercède. Un avocat, il intercède, hein. Je suis toujours frappé de voir les avocats, comment ils intercèdent auprès des juges en France. Même si on sait que la personne est vraiment un abominable criminel, l'avocat, il vient là en disant: Mais ce pauvre homme, c'est une victime, vous acharnez. Il plaide, mais presque avec des larmes, alors que de l'extérieur, on dit: Mais c'est un gredin, comment tu peux intercéder? Et c'est leur rôle, hein, et c'est leur vocation pour ceux qui ont la vocation. Mais le Seigneur Jésus-Christ, il plaide pour nous. Il y a le diable qui vient nous accuser et dire: Regarde, l'enfant de Dieu qu'il est, et en fait, il vit encore dans le péché, il a tel ou tel truc, hein, il faut le condamner, il faut l'écraser. Et Christ plaide. Il dit: Non, j'ai payé pour lui, je suis son sacrificateur éternel. Il n'est plus resté dans la mort, il plaide tout le temps, il intercède, il fait un sacrifice permanent. En fait, ses souffrances ont un effet permanent. C'est un petit peu comme si vous preniez un médicament qui agit, vous le prenez une fois dans votre vie et il va agir jusqu'à la fin de vos jours. Hein. Imaginez, vous prenez un aspirine, vous avez mal à la tête, et après, plus besoin de prendre de l'aspirine, jamais dans votre vie, vous êtes guéri à jamais. eh bien, le Seigneur a une efficacité éternelle. Alors j'aimerais lire un passage dans ce commentaire qui a édifié des centaines de chrétiens dans l'histoire. Il s'agit du Voile déchiré de Andrew Murray, un livre du 19e siècle, oui, tournant du 20e, je pense. Et ce commentaire sur l'Épître aux Hébreux dit ceci. Dès le début de l'Épître, le ministère de Christ est décrit comme étant double. Il a fait la purification des péchés, ça c'est au chapitre 1 de Hébreux, selon l'ordre d'Aaron, des Lévites. Et puis, deuxièmement, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Ça, c'est selon l'ordre de Melchisédek. Trop de chrétiens ne voient en Christ que l'accomplissement de ce que Aaron préfigurait. Ils s'efforcent de faire reposer leur foi sur la mort et le sang de Christ, qui leur sont très précieux, mais ils s'étonnent d'avoir si peu de cette paix, de cette joie, parce que roi de Salem, c'est roi de paix. Melchisédek, ça veut dire roi de justice. De cette pureté, de cette puissance que donne le Sauveur et que devrait produire la foi en lui. La raison en est simple. Christ n'est pour eux que leur Aaron, il n'est pas leur Melchisédek. Ils croient bien que Jésus est monté au ciel, qu'il s'est assis sur le trône de Dieu, mais ils n'ont pas saisi le rapport entre ce fait et leur vie spirituelle de tous les jours. Ils ne comptent pas sur Jésus agissant en eux avec la puissance de la vie céleste et leur communiquant cette vie. Ils ignorent leur vocation céleste et toutes les ressources pleinement suffisantes qu'offre la vie de leur souverain sacrificateur pour qu'ils puissent vivre eux-mêmes cette vie ici-bas. En conséquence, ils ne comprennent même pas la nécessité de délaisser le monde pour marcher vers le ciel. Voilà. Et c'est juste un extrait, mais c'est intéressant de voir que on peut rester juste dans l'expiation et négliger la résurrection. La Bible dit que nous sommes morts avec Christ. Si on a cru en Christ, on est mort avec lui. C'est-à-dire, on est pardonné. Notre vie de péché est pardonnée, morte. C'est fini, on n'en parle plus. D'ailleurs, le baptême, c'est le symbole de cette mort. On enterre, hein, notre vie sous l'eau, là. Hein. Ça, c'est le baptême. Mais normalement, au baptême, je l'espère, on sort de l'eau. Sinon, on a des problèmes de respiration. Et la sortie de l'eau symbolise la résurrection. Et il dit, comme vous êtes mort avec Christ, vous êtes ressuscité en lui. Et ressuscité, ce n'est pas simplement là physiquement, mais il veut dire surtout spirituellement. Et il y a des chrétiens qui restent dans le pardon. Alors, je suis pardonné, c'est déjà formidable, hein? Mais non seulement je suis pardonné, mais j'ai une nouvelle vie de ressuscité. Et cette nouvelle vie, c'est celle de Melchisédek, hein, de Christ Melchisédek, qui est toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Nous n'avons plus besoin de prêtres aujourd'hui. Et quand on comprend ça, ça affiche un coup. Parce que dans la religion catholique, par exemple, ou la religion orthodoxe, il y a des centaines, des milliers de prêtres. Tout est basé même sur la prêtrise. Et pourquoi on n'a plus besoin de prêtre? Parce qu'il est écrit là, son sacerdoce n'est pas transmissible. Christ est ressuscité, il n'a pas besoin de remplaçant. Il n'a pas besoin de quelqu'un qui va le prendre sa place. Il n'y a plus besoin de prêtre. Nous avons notre prêtre qui est Jésus-Christ. On n'a qu'un seul médiateur, il n'y a pas 36 médiateurs. Le pasteur n'est pas un médiateur. Le prêtre n'est pas un médiateur, il n'y a qu'un seul médiateur, c'est Jésus ressuscité. Nous n'avons pas besoin d'un successeur apostolique, d'un vicaire du Christ. Vicaire, ça veut dire le remplaçant, hein, du Christ. Pourquoi? Parce que Christ, son sacerdoce n'est pas transmissible. C'est écrit noir sur blanc, hein, dans la parole de Dieu. Alors peut-être quelqu'un dirait, mais vous êtes pour la suppression des prêtres? Moi, je suis pour rien. C'est à chacun de regarder la parole de Dieu et de prendre la conséquence de ce que dit le Seigneur. Dans notre Église, nous sommes tous prêtres, quelque part, comme dit la Bible, un sacrificateur, mais nous avons un seul souverain prêtre, un seul prêtre qui intercède pour nous, qui nous sauve parfaitement, c'est Jésus-Christ. Et j'aime le parfaitement là, hein. Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est tout toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Dans le dogme, alors là, beaucoup de catholiques ne le savent pas, mais dans le dogme de l'Église catholique, la mort de Christ, c'est pour effacer les péchés passés et surtout le péché originel. Le baptême efface le péché originel et la mort de Christ aussi ajoute à cet effacement. Mais après, il faut que le catholique fasse des œuvres, des sacrements, des prières, des bonnes œuvres pour expier ses propres péchés. Donc il y a Jésus qui m'aide en fait à expier mes péchés. Moi j'expie et lui il expie et tous les deux avec la Vierge, tous les trois, on essaye, et le pape et l'Église, on essaie tous ensemble d'expier mes péchés. Or le message des Écritures est tout différent. Il dit qu'il y a un seul qui a expié nos péchés, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Une fois pour toutes et parfaitement, parce qu'il est ressuscité. Est-ce que moi je suis ressuscité? Est-ce que le prêtre est ressuscité? Est-ce que le pape est ressuscité? Non, il n'y en a qu'un qui est ressuscité, qui a sorti vainqueur de la mort, c'est le Seigneur Jésus-Christ. On peut donc s'approcher de Dieu avec joie et certitude. Seigneur, si je viens à toi, tu vas me sauver parfaitement. Ça veut dire tu vas tout effacer, tu vas me rendre nouveau. Et ça nous amène au chapitre 8, qui continue la même pensée, mais on va regarder le verset 10. Chapitre 8 d'Hébreux, verset 10. « Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère en disant « Connais le Seigneur, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs péchés, leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » En disant « une alliance nouvelle », il a déclaré « ancienne la première ». Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Alors, l'auteur de l'Épître aux Hébreux s'adresse à des croyants juifs qui croyaient que Jésus est le Messie, mais qui en même temps voulaient garder le vieux système, justement, du temple avec les prêtres et les sacrifices. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, inspiré par le Saint-Esprit, leur dit « Tu ne peux pas avoir le vieux système et le nouveau. Christ accomplit, il termine, il achève, on passe à une nouvelle alliance. Nous disons que la partie des Écritures qui est après Jésus-Christ s'appelle le... Après Jésus-Christ ? Le Nouveau Testament. Merci. Vous me faites peur, là. Oui, enfin, Jésus-Christ après. Le Nouveau Testament. En fait, c'est tiré de ce passage, entre autres. Le mot « testament » en grec, c'est « diatheke », qu'on peut traduire aussi par « alliance », « nouvelle alliance ». Mais on ne dit pas « je vais lire la nouvelle alliance », ça fait un peu bizarre. Par contre, le Nouveau Testament, « testament », c'est souvent un texte, une écriture. Mais en fait, c'est la même chose, la même idée. C'est quelque chose qui a été pensé et écrit et décidé par Dieu et qui a une valeur éternel, surtout après la mort. Pour qu'il y ait un testament, il faut qu'il y ait la mort. Et qui est mort ? Christ. Et il est ressuscité. Et donc, nous avons maintenant une nouvelle alliance qui a commencé. Cette nouvelle alliance était promise d'abord à la maison d'Israël, dans le verset 10. « Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. » Effectivement, c'est pour ça que Jésus était juif. C'est pour ça que le message a commencé par Israël. Et ce message adressé à Israël, en fait, Dieu, bien sûr, l'a étendu à toutes les nations. Il est devenu universel. Mais il ne faut pas oublier que c'est au départ pour Israël, pour le juif premièrement, puis pour le grec, dit l'Écriture. Et il y avait l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Alors, bien sûr, des fois, nous ne voulons pas être impolis ou vexer nos amis juifs en disant nous avons le Nouveau Testament, vous avez l'Ancien Testament. Ça peut paraître un peu méprisant. C'est une vérité qui a une nouvelle alliance, c'est biblique, c'est dans les Écritures. C'est une citation, là, dans le verset 10 de l'Ancien Testament, de Jérémie. Mais on dit il y a les Écritures hébraïques pour les Juifs et les Écritures grecques, parce que le Nouveau Testament est écrit en grec. Mais néanmoins, il y a bien une nouvelle alliance. L'ancienne alliance était basée sur quoi ? Sur des lois. C'est Moïse, encore une fois, qui a été l'instrument de cette révélation. Toutes les lois dans l'Exode, le Lévitique, il y avait des lois civiles et des lois spirituelles, religieuses, et il fallait suivre la loi. Et la Bible dit, celui qui suit la loi, il vivra. C'est-à-dire, il ne sera pas condamné à mort. Hein, c'est ça que ça veut dire, il vivra. Il aura le droit de vivre. Et quand on avait péché contre cette loi, parce que tout le monde péchait contre cette loi, pour ne pas mourir, on allait au temple offrir un animal, ce qui couvrait notre péché et qui nous gardait en vie. Ça, c'est la première alliance. Mais Dieu dit, je vais faire une autre alliance, une nouvelle alliance. Et il dit, après ces jours-là, je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur. Il y a une différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. L'ancienne, la loi est extérieure. Elle me dit, fais ci, fais ça, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Et moi, avec mon cœur rebelle, avec ma nature pécheresse, comment je réagis quand on me dit, fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça? Même si j'ai de la bonne volonté, même si je dis, mais oh, je dois être un bon chrétien, un bon juif, je vais pécher. Parce que ça va être plus fort que moi. Le péché va me dominer. Hein. Alors, c'était quelque part un échec sur échec. Le peuple juif n'a pas obéi à la loi correctement. Et personne ne peut obéir à la loi correctement. Il n'y a aucun homme sur la terre qui peut dire j'ai obéi à tous les commandements parfaitement, sauf, bien sûr, Jésus. Même le jeune homme riche dans les évangiles hein, qui dit j'ai obéi à tous les commandements depuis ma jeunesse, Jésus lui dit ben, très bien, va vendre tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Et là, tout se dégonfle. Hein. Et il avait encore l'amour de l'argent, en fait, une idole. Hein. Il avait peut-être obéi à un certain nombre de commandements, mais il y avait toujours une idole dans son cœur. Mais la seconde alliance est extraordinaire parce que Dieu écrit la loi dans le cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que cette loi vient de l'intérieur, devient naturelle. J'ai envie de faire ça parce que c'est écrit dans mon cœur. Comment Dieu écrit-il la loi dans le cœur? Comment ça se passe concrètement? Mais c'est le jour où on se tourne vers Christ, vers Dieu, et on dit Seigneur, sauve-moi, il nous donne son Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit habite dans le cœur du croyant, et c'est lui qui grave la loi, qui écrit. Il nous donne des nouveaux désirs, il nous donne une nouvelle pensée. On a la pensée de Christ, on a les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, on a l'esprit de Jésus-Christ en nous. Avant ma conversion, j'avais l'esprit du péché, l'esprit du prince de ce monde, l'esprit de ce monde. Donc j'étais dans la convoitise, l'orgueil, la querelle, le péché, la débauche, la salissure. Bon, l'égoïsme, et je pourrais en citer et en citer. Quand je me suis tourné vers Christ, il a remplacé ça et il m'a donné des nouvelles valeurs ou des nouveaux désirs. C'est l'amour, la joie, la paix, le fruit de l'esprit, hein, la pureté. Je ne sais pas si vous vous souvenez de votre conversion, mais combien on a envie d'être pur, combien on a de l'amour en trop quand on se convertit. D'un seul coup, on dit, mais d'où ça vient cet amour-là? Mais ça vient du Saint-Esprit. Alors qu'avant, dans l'ancienne alliance, on disait, tu dois aimer. Bon, alors, d'accord, tu dois aimer. Et si tu n'aimes pas, tu es mauvais. Ça, ce n'est pas suffisant. Il faut autre chose. Il faut que Dieu vienne mettre cet amour dans nos cœurs, cette joie dans nos cœurs, cette sainteté dans nos cœurs. Et c'est ça la nouvelle alliance. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Il y a un lien là, une communion qui n'existait pas. Qui existait rarement dans l'Ancien Testament. Il y a plusieurs hommes et femmes qui avaient cette communion hein, dans l'Ancienne Alliance. David est un meilleur exemple. Hein. Et il y avait d'autres, des prophètes ou même des individus hein, qui avaient une relation personnelle. Mais beaucoup suivaient la loi de Dieu comme une religion extérieure. Et les pharisiens étaient les maîtres de ça. Ils avaient la parfaite apparence du bon religieux. La façon de s'habiller, la façon de parler, la façon de prier, la façon de bouger, la façon de se marier, d'élever ses enfants, tout était impeccable, correct selon la religion. Et Jésus leur dit, mais à l'intérieur de vous, c'est abominable, c'est des saletés. Et ils étaient beaucoup, pas tous, hein, dans l'orgueil. Ils se croyaient supérieurs aux autres, ils étaient durs avec leurs frères et sœurs, ils n'avaient pas d'amour, aucune miséricorde, hein, pour les autres, ceux qui avaient des difficultés. Et Jésus a dénoncé cette hypocrisie. Mais quand la loi est écrite dans le cœur, ça vient de l'intérieur, ça sort, ça jaillit. Et c'est merveilleux quand on a cette nouvelle alliance. Cette nouvelle alliance, elle vient du sacrifice et de la résurrection de Christ. L'ancienne alliance, alors est-ce que l'Ancien Testament ou la Bible, ça n'a pas de valeur? Si, bien sûr que ça a une immense valeur. La loi est parfaite. La loi est bonne, dit la Bible. Et tout ce qui est dans l'Ancien Testament est très intéressant. Mais en fait, c'est une annonce, une préfiguration de ce que Christ va faire. Il faut regarder Christ dans l'Ancienne Alliance. Il faut chercher Christ. Il y a des livres excellents, si ça vous intéresse, sur le tabernacle de Moïse, qui montrent que Christ est partout. Il est l'agneau, il est la porte d'entrée, il est le sacrificateur, on l'a dit, il est le souverain sacrificateur, il est l'autel des holocaustes, il est le voile, hein, on en parlait la dernière fois, il est l'arche d'alliance, il est tout dans le tabernacle, il est partout. Même les quatre couvertures, hein, sur la tente symbolisent Christ dans son humanité, dans sa divinité, dans son aspect céleste, dans sa pureté, dans son sang versé. Toutes ces couleurs ont un sens symbolique très fort. Christ est partout dans la Bible. Il y a un bon livre aussi, hein, qui dit Christ dans toutes les Écritures, voilà. Et c'est un chrétien qui a essayé de trouver dans chaque livre de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, ce qui parle de Christ. Soit directement, soit indirectement aussi, hein, toutes les images. Voilà, voilà, ça me sort, le bouc émissaire, par exemple, dans l'Ancien Testament, ce bouc sur lequel on mettait les péchés symboliquement et qu'on envoyait. Jésus est ce bouc émissaire, il est le serpent d'airain. Voilà, il est partout dans la Bible. Et c'est en ça que l'Ancienne Alliance est fascinante. Mais il faut vraiment vivre dans la nouvelle maintenant. La religion humaine, même chrétienne, est restée souvent à la croix. Et il y a des gens qui vénèrent la croix. Ils se mettent devant la croix et ils s'agenouillent. Hein. Mais nous n'adorons pas un Dieu mort. Nous adorons un Seigneur ressuscité. Et sa vie de ressuscité, il veut nous la donner. Et si je suis un chrétien qui reste sur la croix, je n'aurai pas cette nouvelle vie. Je vais être dans l'ancienne alliance. Je vais être sous Aaron. Dieu veut qu'on soit sous Melchisédek dans la nouvelle alliance. Seigneur, que ta loi qui est gravée maintenant dans mon cœur se manifeste. Que ces nouveaux désirs qui viennent de Dieu soient manifestés. Comment? Mais ce qui est dur, et je terminerai avec ça, c'est que l'Épître aux Galates dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Il y a un combat dans le chrétien entre la chair, la vieille nature, et l'esprit, la nouvelle nature. Et tant qu'on sera sur la terre vivant, il y aura ce combat en nous. Et ça nous oblige quelque part, ce combat, à choisir, à dire Seigneur, je veux choisir l'esprit. Je veux vivre par l'esprit. On a notre part là, notre responsabilité. Ce n'est pas automatique. Et c'est à nous de dire Seigneur, parce que je t'aime, je veux vivre par l'esprit et je veux délaisser, crucifier la chair avec ses passions. Et c'est un peu le test du chrétien. Beaucoup de gens disent, je suis chrétien, voilà, je crois en Dieu ou je crois en Jésus. Mais le vrai test, c'est est-ce que tu choisis la vie de l'esprit? Est-ce que tu choisis la vie céleste? Est-ce que tu choisis la croix, de porter la croix avec Christ, la honte? Qui était avec Christ, est-ce que tu choisis la sainteté? Qu'est-ce que tu choisis? Et ce choix est devant nous, à nous de le faire chaque jour, de suivre le Seigneur. Mais quand on choisit l'Esprit, c'est l'Esprit de Dieu en nous qui est puissant et qui agit. Ce n'est pas avec nos forces. Nous, ce qu'on a à faire, c'est à choisir qui on va suivre. Mais après, c'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Si je choisis la chair, c'est la chair qui va faire le travail, hein, puis elle va bien le faire, va m'emmener vraiment le plus bas possible. Mais si je choisis de suivre l'esprit, il va m'emmener le plus haut possible, comme l'aigle s'envole au gré des vents. Et que le Seigneur nous donne, eh bien, se révèle à nous dans toute sa grâce et qu'on choisisse de vivre par l'esprit et non par la chair.